Gloire à Dieu, nous allons partager sur Jésus une fois de plus. Et le titre c'est « La simplicité de Jésus, la simplicité et la discrétion ». Nous commençons par lire dans Jean chapitre 13, 14 à 17. Jean chapitre 13, 14 à 17. Nous commençons par cet avertissement de Jean 13, 14 à 17, que Jésus donne en douceur. Jésus parle toujours en douceur. Il donne cet avertissement en douceur à tous ceux qui allaient venir après lui. Nous lisons dans Jean 13, 14 à 17.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.
Voilà, il commence par cet avertissement. Nous commençons plutôt par cet avertissement. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, puisque apôtre veut dire envoyé. Il dit, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Pourquoi il dit ça à ses apôtres, à ses disciples? Parce que pendant qu'il leur lavait les pieds, il y a Pierre qui a contesté. Pierre qui a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus dit, attention Pierre, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu ne me connais pas, nous n'avons plus de relation. Si quelqu'un est pour moi, il doit accepter mon attitude. Et Jésus dit, je vous ai lavé les pieds pour vous montrer un exemple à suivre. Pour vous montrer ce que j'attends de vous. Et moi-même, je vous lave les pieds. Afin que vous appreniez à vous laver les pieds entre vous. À vous humilier. À vous accepter d'être inférieur aux autres. À accepter la simplicité. Si tu n'es pas d'accord avec ça, donc tu ne m'as pas connu. Ça, nous n'avons pas de relation. Et il rajoute cet avertissement, attention, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il ne faut pas se croire plus intelligent, plus fort que Jésus. C'est le conseil du départ. Je commence par ça. Jésus a promis que ses disciples allaient faire des grands miracles. Que ce soit dans Marc 16, que ce soit dans Jean 14. Dans Jean 14, il va fort. Il dit qu'ils feront des plus grandes choses. Dans Marc 16, il dit qu'ils feront des miracles. Mais dans ce Jean 13, il dit attention, ça ne doit pas changer l'attitude d'un serviteur, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu doit rester humble, doit rester simple comme son maître Jésus. Il dit, vous ne me dépassez en rien. Aujourd'hui, il y a des gens, au nom de Jésus, ils ont rempli des stades. Au nom de Jésus, ils ont ressuscité des morts. Jésus dit, vous ne me dépassez en rien. Vous n'êtes que mes envoyés. Vous êtes mes serviteurs. Et vous ne me dépassez pas. Si moi, je me suis humilié, si moi, j'ai été simple, ne pensez que pas que les grandes choses que je permets que vous accomplissiez vous donnent le droit de faire différemment de moi. Moi, bien-aimé, je suis convaincu que dans les temps de la fin, Dieu va utiliser les enfants de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi je fais un avertissement de plus, parce que je pense que j'en ai déjà parlé. Je fais un avertissement encore de plus. Attention, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ce n'est pas parce que vous avez vu un, entre guillemets, évangéliste, pasteur, faire d'une manière qui semble réussir, que vous devez prendre cette manière-là, oublier Jésus-Christ. ce pasteur-là n'est pas plus grand que Jésus, ni cet apôtre-là. Même s'il est rempli de stades, même si tout lui obéit, Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc tous les conseils que je veux vous donner, prenez ça à cœur. Et Jésus dit à ses apôtres, il dit, si vous connaissez ces choses-là, vous êtes bien heureux. Si vous pouvez les pratiquer. Restez dans la simplicité et la discrétion. Donc moi, je vais présenter Jésus. En fait, pourquoi je donne ce premier avertissement? Parce que je vais présenter Jésus. En présentant Jésus, nous sommes libres après, soit de suivre sa manière, soit de nous inventer une autre manière, soit de suivre la manière de quelqu'un qui nous a épatés, qui semble avoir réussi. Jésus dit, c'est lui qu'on doit suivre, parce qu'il est plus grand que nous tous. Il est clair, il le dit clairement, le disciple n'est pas plus grand que le maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Voilà. Il est le plus grand. Mais il dit à Pierre, moi qui suis votre maître, moi qui suis le plus grand, je vous lave les pieds. Donc, comprenez le message. Soyez toujours humble, plus bas que ce que les gens voudraient vous attribuer comme élévation. Ne suivez pas ça. Restez toujours à mes pieds, restez toujours à laver les pieds des autres. C'est un conseil que je donne encore une fois de plus ce matin. Jésus-Christ est grand, c'est lui le Seigneur des Seigneurs, mais il vient de laver les pieds de ses disciples et il leur dit attention, ça ne change rien sur le fait que je suis plus grand que vous. Jésus s'est retrouvé à la croix, mais il était toujours le plus grand. Jésus a été giflé, mais il demeurait le plus grand. Peu importe ce qu'il a subi, il était toujours le plus grand. Bien-aimé, votre statut auprès de Dieu ne changera pas en fonction de ce que vous produisez ou pas. C'est en fonction de votre obéissance. C'est ça qui comptera. Est-ce que vous suivez le maître? C'est ça qui compte. Ce n'est pas ce que nous produisons. Nous pouvons produire de grandes choses, mais Dieu n'est pas avec nous. Ou Dieu nous a déjà délaissés. Nous avons beaucoup d'exemples dans les Écritures où des gens ont fait des choses. Le roi Saül, malgré sa désobéissance, il a gagné la guerre. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc nous allons lire certaines choses à propos du maître, que ce soit pour nous un modèle à suivre, une ligne à suivre toute notre vie chrétienne. Un jour, pendant que Dieu vous utilisera puissamment pour peut-être devenir riche, ou peut-être sauver des milliers d'âmes, pour peut-être faire je ne sais quoi, souvenez-vous, voilà, de ces conseils. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus n'a pas cherché à se faire publicité, ni à se faire applaudir. Il a juste voulu obéir à son papa. C'est tout. Mais bien sûr, en obéissant au Père, il peut avoir des conséquences de popularité. Mais Jésus n'a jamais cherché la popularité. Il peut avoir des conséquences de richesse, mais il n'a jamais cherché tout cela. Donc, que nous apprenions à mettre de côté tout ça, popularité et richesse, pour rester dans l'humilité et la simplicité, dans la discrétion de Jésus. Nous allons lire, nous commençons par Luc 2, 8 à 20. Luc 2, 8 à 20. Ensuite, nous prendrons Matthieu 2, 1 à 6. Luc 2, 8 à 20.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
Voilà, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que des anges viennent en gloire se manifester auprès des bergers pour leur annoncer la naissance de Jésus. Ils viennent en gloire. Des anges, ça montre quoi? Ça montre que Jésus est grand, puisque c'est des anges qui quittent le ciel en gloire, qui paraît sur la terre pour parler de sa naissance. Mais il parle de ça à qui? À des bergers, à des gens qu'on ne comptait pas dans le milieu spirituel. Dans le milieu politique, c'est des gens qui ne comptaient pas, c'est des gens de classe moyenne, des gens qui n'avaient pas de poids auprès du peuple, des gens simples. Et ce fameux bébé qui est prétendument le Fils de Dieu, il est où? Il est dans une mangeoire. Donc là où on donne la nourriture aux animaux. C'est là que ce bébé trouve son lit. Est-ce que nous comprenons le message de Dieu derrière tout cela? Oui, oui, Jésus est très grand puisque des anges viennent. Une étoile va même bouger pour en montrer là où il est né. Mais en même temps, il ne cherche pas à montrer qu'il est très grand. Il vient en simplicité auprès des humains, en se révélant non pas aux grands, mais aux petits. Vous savez, quelqu'un qui est sûr de lui ne cherche pas à faire du bruit. Ce sont les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui veulent faire du bruit comme pour augmenter leur puissance. Mais le bruit n'a jamais augmenté la puissance de quelqu'un. Jésus sait ce qu'il était. Les anges étaient là pour témoigner. Il savait ce qu'il était. Les anges étaient là. Mais il voulait nous apprendre que le véritable cœur que Dieu veut, c'est un cœur d'humilité. Vous savez pourquoi Satan est tombé? Ça, il est dit de Satan qu'il s'est trouvé beau. Il s'est trouvé beau. Il a regardé à lui-même, il s'est trouvé glorieux. C'est ça qui a précipité sa chute. Qu'est-ce qui a précipité la chute d'Adam et Ève? Ils ont écouté un discours qui faisait d'eux des dieux. Mais non, mais vous êtes comme lui, il veut juste vous empêcher d'y accéder. Mangez de ce fruit et vous devenez comme lui. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Et donc quand le Fils de Dieu vient pour nous sauver réellement, totalement, pour nous amener la vérité, il nous dit attention, regardez mon parcours, que cela vous fasse comprendre qu'est-ce que je viens vous enseigner. Je viens faire le contraire de ce qui a entraîné la chute de votre père Adam, la chute du diable. Je viens vous enseigner à faire le contraire parce que vous courez à votre perte comme eux aussi. si vous ne comprenez pas le message. Lui qui est grand, fils de Dieu, qui fait déplacer les anges, mais il dort dans une mangeoire, dans une crèche. Il n'a même pas de place dans une chambre simple. Nous ne parlons même pas d'une chambre 0,5 étoiles, mais nous parlons d'un endroit où vivent les animaux. C'est là que lui dort. C'est ça la simplicité de Jésus. C'est le premier épisode. Nous prenons le deuxième épisode. Luc, Marc, Matthieu 2, 1 à 6.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. »
Alors, une étoile bouge pour annoncer la naissance de Jésus. Mais les gens ne sont pas au courant. Qui sont au courant? Nous venons de voir, les bergers ont été mis au courant. Mais les grands du peuple ne sont pas au courant. Les sacrificateurs ne sont pas au courant, les historiens, les politiciens, les dirigeants ne sont pas au courant. Mais qui est-ce que est au courant en dehors des bergers? C'est des étrangers qui viennent de loin. Ils reconnaissent en Jésus le roi des Juifs, puisqu'il fait bouger toute une étoile. Ils disent, mais comment une étoile peut bouger? C'est qu'il y a un événement important sur terre qui s'accomplit. Nous allons suivre cette étoile pour voir cet événement. Et en suivant l'étoile, ils comprennent que c'est la naissance de quelqu'un d'important qui est annoncé par cette étoile. Et ils arrivent dans cet endroit. Les gens même qui sont censés être au courant, c'est-à-dire les sacrificateurs, les gens qui parlaient de Dieu au peuple, les prophètes de l'époque, les gens qui dirigeaient civilement le peuple, ben, ils ne sont pas au courant. Donc les Juifs eux-mêmes ne sont pas au courant. Simplicité et discrétion. Jésus ne fait pas dans le bruit. Il fait dans la discrétion. C'est fait exprès. Il aurait pu envoyer un ange de 50 mètres de hauteur descendre sur le temple et annoncer que Jésus est né dans tel endroit. Il pouvait faire, il a cette capacité. Mais il a choisi de montrer une autre facette, la facette de la simplicité et de la discrétion. Les gens ne sont même pas au courant, mais il est né. Et il va se révéler à des étrangers. Tout cela est fait exprès, de sorte que ne viennent à Jésus que des gens humbles. Parce qu'un vrai juif ne va pas accepter que ce soit un étranger qui lui dise qui est son Messie. Mais un juif humble va accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Voilà. Les choses sont faites de sorte que seuls les petits, seuls les humbles auront accès à Dieu. Jésus vient de cette manière-là. Il ne fait pas de bruit. Son propre peuple n'est pas au courant. Quelques bergers, une classe insignifiante, enfin, qui ne compte pas dans ces choses-là, et des étrangers qui viennent. Mais normalement, quand des étrangers viennent comme ça, il faut faire attention, se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment des étrangers qui viennent de loin avec des éléments d'adoration pour un roi? Il y a quelque chose qui se passe que nous avons loupé. Normalement, ça doit conduire à l'humilité, mais nous connaissons la suite, ça n'a pas conduit à l'humilité, ça a conduit à la résistance. Et Hérode, le roi, il tremble lui quand même, il dit, mais non, quand même, des étrangers qui viennent de loin, il faudrait, lui, il leur dit, écoutez, trouvez l'endroit et informez-moi. Il avait pour objectif de tuer maintenant cet enfant-là. Lui, il a quand même pris les choses au sérieux. Vous voyez, des gens incultes, des mauvais, ils prennent quand même au sérieux la manifestation de Dieu. Mais les gens qui sont censés connaître Dieu, les sacrificateurs, les prophètes de l'époque, les dirigeants du peuple de l'époque, ils sont déjà dans leur truc. Bien-aimés, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les gens censés saisir Jésus, ils ne saisissent pas Jésus. Ils sont dans leurs choses, dans leur système. Au fait, c'est leur façon de faire qui compte. C'est le nombre qui compte. C'est les résultats qui comptent. Ce n'est plus Jésus qui compte. Et il va faire exprès afin que tout ce qui compte sur autre chose ne le voit pas lui quand il va se manifester. C'est ce qui va se... C'est ça la discrétion. Il vient en discrétion. De sorte que tous ceux qui sont bloqués par leurs sensations, leurs sentiments, leur façon de faire, au lieu de chercher Jésus, au lieu de chercher celui qui est la source de la vie, eh bien, ils vont se tromper. C'est ce qui se passe là. Tous ne sont pas au courant, sauf quelques bergers, sauf Marie, Joseph. On va voir dans la suite Siméon et Anne. Et Siméon, quand il se présente au temple, est-ce pour voir un guerrier, un costaud? Non, Dieu, le Saint-Esprit lui a dit, mais tu verras, en allant au temple, je vais honorer la promesse que je t'ai faite, que tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Et quand Siméon arrive au temple, il se dirige vers qui? Il se dirige vers un bébé. Qui peut considérer qu'un bébé soit le roi des rois, le Messie, le Fils de Dieu, sans que ça soit Dieu qui lui parle dans son cœur? Vous voyez, aujourd'hui, les gens n'accepteront pas que Dieu vienne sous la forme d'un bébé. Autrement dit, que Dieu vienne simplement. Ils vont chercher Dieu dans ce qui brille, dans ce qui impressionne. Ils ne veulent pas chercher Dieu dans ce qui est simple. Or, Jésus, c'est simplicité et discrétion. Du coup, tous ceux qui vont le chercher autrement vont se tromper. Mais Siméon qui le cherchait en vérité, au fait, qui n'avait pas d'a priori, qui cherchait vraiment à voir le Messie, lui l'a reconnu dans ce bébé-là, le Messie. Il dit la gloire d'Israël. C'est extraordinaire quand vous écoutez l'éloge de Siméon envers un bébé. Nous sommes étonnés. Mais le peuple, quand est-ce qu'il a fait des éloges à Jésus? Lorsqu'il a fait des miracles. Et lorsqu'ils prêchaient avec autorité, c'est là qu'ils ont dit, mais nous n'avons pas entendu quelqu'un parler avec une telle autorité. Et il y a même une femme qui dit, mais heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, mais tout ça c'est des discours, le plus important c'est pratiquer, c'est me suivre moi. C'est ça le plus important, me vanter, ça c'est des paroles. M'applaudir, ça c'est du spectacle. Le plus important, c'est saisir, me saisir moi. Le frère Paul a dit, je considère tout comme perte afin de saisir Jésus lui-même. Que ce soit mes exploits, que ce soit mes échecs, je les considère comme zéro. Le plus important, c'est m'accrocher à mon ami Jésus, dit notre frère Paul. Et Jésus dit à la dame, le plus important, c'est de me saisir. Il dit aux apôtres, le plus important, c'est de m'imiter, c'est de pratiquer ce que je fais. Je vous ai lavé les pieds. Je n'ai pas cherché à vous assommer par mon titre de maître. J'ai été parmi vous comme un ami. Et jusqu'à vous laver les pieds, C'est ça la simplicité. Bien-aimé Jésus, simplicité, discrétion, il naît et sans bruit, sans bruit. Je vous donne tous ces conseils, bien-aimés, pour l'avenir. Nous ne serons pas toujours ensemble. Attention dans comment Dieu va vous utiliser. Restez comme Jésus-Christ, comme il est en train. Nous sommes en train de lire là. Comme ça, c'est tout. Vous n'avez pas à vous autoproclamer quelque chose. Faites les choses, obéissez à Dieu. Restez cachés, soyez discrets. C'est Dieu lui-même qui va défendre son nom à travers vous. Ce n'est pas à vous de le faire. C'est très important. Je suivais beaucoup autrefois un serviteur de Dieu qui jusqu'à aujourd'hui, je dis, il était sérieux parce qu'il n'a jamais cherché l'argent ni quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que dernièrement, j'ai tenté de suivre encore quelques prédications de lui. Les 20 premières minutes, pendant les 20 premières minutes, il racontait ce que Dieu avait fait d'extraordinaire avec lui. Et ça m'a attristé. Je crois que c'est peut-être ça qui a imposé cette prédication. N'oublions pas Jésus. Le frère Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus. Nous pouvons être entraînés dans l'œuvre de Dieu à faire des choses, mais n'oublions pas celui qui produit ces choses-là. N'oublions pas comment il veut que les choses se fassent. N'oublions pas. Quand, bien-aimé, pendant 20 minutes, tu expliques aux gens comment tu es devenu millionnaire, comment tu as été guéri du cancer. Je donne un exemple, je n'ai pas dit ce qu'il a dit. Hein. Qui ne va pas te suivre? Voyez comment je suis devenu millionnaire. Voyez comment j'ai été guéri du cancer. Voyez comment j'ai été dans tel hôpital, j'ai guéri 10 personnes. Quoi? Quand tu expliques tout ça avant ta prédication, après, les gens, ils t'écoutent pourquoi maintenant? Ils t'écoutent parce que tu as vécu de grandes choses. Ils ne t'écoutent pas pour le Seigneur. Ils ne t'écoutent pas pour, ils ne t'écoutent plus pour la vérité. Jésus, quand, je veux vous poser une question. Quand Siméon tient le bébé pour dire c'est lui le Messie, Siméon a vu quel miracle? Siméon a écouté quelle prédication? Quand il tient ce bébé-là pour dire que c'est le Messie, est-ce que la vérité a besoin d'être d'une publicité? Pas du tout. La vérité n'a pas besoin de publicité. Soyons vigilants. La vérité est puissante par elle-même. Dieu veut que nous le choisissions parce qu'il est la vérité et non pas parce qu'il peut faire quelque chose, il va faire ceci, il va vous donner des mariages. Non, c'est la vérité, ça ne change pas. Ce n'est pas quelque... Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin qu'on lui rajoute une publicité. Non, il est comme ça. Il pouvait ne pas nous créer. Il allait créer d'autres personnes. La vérité n'a pas besoin d'une publicité avant d'être annoncée. Quand Siméon vient chercher Jésus, est-ce que ses parents s'y attendent? Non! Les parents amènent Jésus pour le sacrifice. Pour le 8e jour, donc la circoncision. Ils sont étonnés de voir un homme tenir leur enfant, dire, mais c'est lui le Messie. D'où ça vient? Ça vient de Dieu. La vérité vient de Dieu. Ça ne vient pas de mon parcours. Même si dans mon parcours, j'ai triomphé des crocodiles, ce n'est pas ça la vérité. C'est l'effet de la vérité. C'est pas ça la vérité. La vérité vient de Dieu. C'est Dieu seul qui est la vérité. Apprenons à prendre la vérité par elle-même. Pas par les bruits qui sont tout autour. C'est très important. Et là, nous voyons Jésus qui naît sans bruit. C'est pourquoi les orgueilleux se tromperont toujours. Mais nous ne voulons pas que les vrais se trompent, parce qu'il est écrit dans Psaume 11:3, quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Donc même le juste peut se tromper à cause des mauvais fondements, à cause des enseignements légèrement déviés. Mais vous savez, une petite déviation, un angle de 2 degrés, lorsque on fait une longue distance, ça peut nous amener très loin de la route normale. Au début, ça paraît fin, 2 degrés, mais si vous allongez la distance, cette déviation-là peut te faire un écart de 100 km. Ça tout dépend de la distance. Les légères déviations qui poussent à la publicité, qui poussent à l'autoproclamation, ce sont des choses qui sortent les gens de la simplicité et de la discrétion de Jésus. Nous allons plus loin, Marc 5, 40 à 43. Marc 5, 40 à 43.
Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha, koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille.
Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Jésus vient de ressusciter une fille. Jésus vient de ressusciter une fille. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas que les gens sachent. Oh! Comment ça tu ne veux pas que les gens sachent? Oui, parce que je ne veux pas de publicité autour de moi comme étant un guérisseur. Je suis le Fils de Dieu. Je ne suis pas un guérisseur. Je suis Dieu. Je suis le sauveur de l'humanité. C'est ça que les gens doivent savoir. Il ne faut pas qu'il y ait un bruit comme quoi je suis un guérisseur. Il faut que les gens connaissent ce que je suis réellement, mais dans la discrétion. Pas dans le bruit, bien-aimé. Qui n'a jamais applaudi dans le bruit? Tout le monde applaudit dans le bruit. Quand tu es au milieu d'une foule qui applaudit, toi aussi tu applaudis. Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que chaque cœur, comme le cœur de Siméon, le reconnaisse comme étant fils de Dieu et sauveur. Il veut parler à chaque cœur. C'est tout. C'est pourquoi il ne veut pas une publicité qui va entraîner un effet de masse, un effet de foule, où tout le monde va dire la même chose puisqu'il y a quelque chose de brillant qui s'est passé. Tout le monde suit. Il a vécu. À plusieurs reprises, la foule a suivi Jésus. Et un jour, il leur a même dit, « Mais vous me suivez parce que vous avez mangé le pain que j'ai multiplié. » Vous ne me suivez pas parce que vous avez compris que si j'ai multiplié le pain, c'est pour vous faire comprendre que je suis le Créateur, je suis celui qui vous a fait descendre la manne dans le désert. Donc si je fais ça, c'est pour que vous compreniez que je peux nourrir votre âme. Je peux vous amener dans un endroit où il y aura toujours par ma puissance. Mais vous ne vous intéressez qu'au pain terrestre. Quelle déception, quelle douleur pour le Seigneur. Il n'est pas venu pour qu'il soit connu comme un homme célèbre qui fait des miracles. Non, il dit, je ne veux pas que les gens sachent. Vous qui venez de vivre ça, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez compris à qui vous avez affaire? Bien-aimés, c'est ça la question que je pose à tous ceux qui suivent. Est-ce que tu as compris à qui tu as affaire en Jésus? C'est ça la grande question. Est-ce que tu as compris à qui tu as affaire? Les premiers seront les derniers. Voilà. Et certains derniers seront les premiers. Vous savez, quand notre ami du livre vert, j'ai oublié le nom, Pavel, quand notre ami Pavel s'est converti, il n'y a eu aucun miracle. Pavel a même tué, il fait partie des gens qui ont tué le chrétien qu'ils ont dépouillé et dans les vêtements duquel ils ont trouvé un Nouveau Testament. Il fait partie des gens qui les ont arrêtés, qui les ont dépouillés, qui les ont tués. Et il a pris le Nouveau Testament. Puisqu'ils n'ont pas trouvé grand-chose comme argent, il a dit, bon, je prends quand même le livre que je trouve là, en rançon, enfin en butin. Chemin faisant, il se dit, mais maman avait ce livre-là autrefois. Bien sûr que sa maman était déjà morte depuis longtemps. Lui, il était dans un camp de bandits. Donc dans la forêt en Russie, ils allaient piller dans les villages avoisinants, ils pillaient les voyageurs. Voilà, c'était ça son métier. Pavel a commencé à lire en souvenir de sa maman qui lui lisait ça quand il était petit. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Il faut toujours faire. Même si nous avons l'impression que ça ne passe pas, il faut toujours faire. C'est ce qu'on appelle suivre Dieu. Appliquer juste ce qu'il dit. Pavel a commencé à lire et il arrive à la croix. Il voit qu'un voleur est sauvé par Jésus à la croix. Lui qui s'est considéré perdu, fini, s'est dit, mais tiens, on peut être sauvé même si on est bandit. Il a relu encore, il a lu, et son cœur était troublé. Il a dit, j'aimerais suivre Jésus. Bien-aimé, y a-t-il eu un miracle dans tout ce que j'ai raconté là? Non, il y a même eu une position de faiblesse de la part des chrétiens qui ont été tués. Normalement, ils pouvaient se dire, mais si leur Dieu est puissant, pourquoi il ne les a pas protégés? Nous, nous les avons tués. Ah non, vous savez, la discrétion, même quand les choses paraissent en notre défaveur, Dieu peut agir. Vous voyez, ça paraissait en défaveur des chrétiens parce qu'ils ont été tués. Mais ça a conduit à la conversion. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas besoin d'exploit pour convaincre un cœur. Pas du tout. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça ne vient d'aucun fait extérieur. Les faits extérieurs peuvent attirer, peuvent interpeller. Mais la foi est un dépôt que le Saint-Esprit pose par la parole de Dieu. Et je dis que le Saint-Esprit, c'est-à-dire que même quand je prêche, là, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans chaque cœur. Dans le travail qu'il mène depuis longtemps même dans chaque individu, à un moment, il va faire que ça se débloque. En fonction aussi de la docilité de la personne. Les choses se débloquent. Il voit clair. Pavel a vu clair. Siméon a vu clair. Anne a vu clair. Ce jour-là, il n'y avait pas que Siméon. Il y a Anne, la prophétesse, qui a pris l'enfant, qui a commencé à dire, c'est le Messie. Mais comment ces gens-là qui n'ont vu aucun miracle prétendent que c'est le Messie? À cause de la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Ces gens-là avaient la vérité en eux. Et ils ont pu reconnaître la vérité. Devant Pilate, qui lui pose des questions, Jésus lui dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Jésus ne dit pas, pour que les gens m'écoutent, il faudrait des miracles. Non, il dit, ceux qui sont de la vérité m'écouteront. Bien-aimés, pourquoi vouloir présenter Jésus en impressionnant? Non. Ceux qui sont de la vérité, ceux qui cherchent le vrai, verront en Jésus la vérité. C'est pourquoi tout se passe dans la simplicité et la discrétion. Autrement, ça ne serait plus la vérité. C'est ça. Bien aimé, nous sommes des humains. Nous avons tendance à vouloir convaincre. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu nous rappelle que ces choses à lui se passent dans la simplicité et la discrétion. Le Saint-Esprit convaincra dans les cœurs. C'est tout. Et là, quelqu'un qui vient de ressusciter un mort dit, je ne veux pas que les gens sachent. Mais aujourd'hui, quelle pub nous ne verrions pas sur le net? Quel reportage nous ne verrions pas sur le net si quelqu'un ressuscite un mort. Et ça fait mal à Dieu parce que ça rend la chose plus grande que Dieu lui-même. Parce que Dieu peut en donner des millions de résurrections. Mais quand les gens s'accrochent, 20 millions de vues dès que c'est un miracle, Dieu dit, ben voilà, c'est qu'eux ils cherchent. Parce que entre un miracle et Jésus, qu'est-ce qui est le plus important? C'est Jésus. Mais si tu mets le titre Jésus, simplicité et discrétion, ça sera 250 vues. Mais si tu mets le titre Jésus, guérison miraculeuse d'un aveugle au Parlement européen, tu verras 100 millions de vues. Donc finalement, qu'est-ce qui est important? C'est Jésus ou la chose? C'est ça la réalité. Les gens se trompent. C'est pourquoi il est écrit que dans la fin des temps, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus ne prendra que ceux qui le cherchent, lui. Je vous dis la vérité. Dans Matthieu 7, il y a des gens qui diront, nous avons chassé les démons, nous avons guéri. C'est pourquoi je vous dis, il faut être méfiant de ce qui se passe avec nous. Il faut plutôt être confiant d'être attaché à Jésus, c'est tout. Parce que ces gens-là, on leur dira, je ne vous ai jamais connu, c'est grave. On ne leur dira même pas que, bon, vous avez échoué à la fin. Non, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Vous avez toujours travaillé selon votre logique et non la mienne. C'est ça la réalité. Nous passons à Marc 8, 27 à 30.
Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.
Ah. Pierre découvre qui est Jésus, tu es le Messie. Jésus dit, bon, n'en parle pas aux gens. N'en parle pas aux gens. Ce n'est pas à moi de faire ma publicité. Parce que tant que Jésus est vivant physiquement avec les pierres, si les pierres disaient que nous avons le Messie à côté de nous, c'est comme si le groupe fait sa propre pub. Il fallait que Jésus soit absent après la résurrection pour qu'ils aillent annoncer maintenant. Là, je ne fais plus la pub de quelqu'un avec qui j'habite chez moi. Je parle de quelqu'un qui est invisible. Voilà. Personne ne m'accusera de parler de quelqu'un qui est mon cousin ou mon oncle. Non, je parle de celui qui a fait les cieux et la terre. Il est invisible, il est disponible pour tous. Là, oui, nous pouvons parler, mais pas faire la pub, mais parler de lui. C'est lui qui convainc dans les cœurs. Il dit, ne dites à personne. Il faut que l'Esprit Saint fasse son travail de convaincre chacun dans le cœur. Et dans un autre évangile, il dit à Pierre, Pierre, tu le sais, par l'Esprit Saint, ça ne vient pas de toi. C'est l'Esprit Saint qui t'a montré que j'étais le Fils de Dieu. Que l'Esprit Saint fasse son travail. Jean 16, 8 nous dit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 13, il dit, il nous conduira dans toute la vérité. Donc nous n'avons pas, à cause de la vérité, nous n'avons pas à faire des pubs charnelles pour convaincre, pour attirer du monde, pour montrer notre réussite. Non. Aujourd'hui, les gens, avant de faire quelque chose, ils font d'abord une introduction où ils montrent leur réussite ensuite ils font la chose pour Dieu. Non, bien-aimé, si tu es dans la vérité comme Pavel se convertit, suis ton Dieu. Dieu t'utilisera. Dieu lui-même, il veut que nous portions du fruit. Il n'a pas besoin que nous forcions. Il veut que nous le souhaitions, mais pas que nous forcions. Il veut que nous comptions sur lui, que nous croyions qu'il peut faire. Pas que nous nous accrochions à une méthode comme si nous manquions de Dieu. Nous ne manquons pas de Dieu. Nous avons un Dieu qui existe, qui a fait des promesses. Faire les choses par soi-même, c'est prouver que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu fais confiance à une méthode. Comme si Dieu n'entend pas. Dieu entend et sait ce dont tu as besoin. C'est lui que tu dois chercher. C'est lui la vérité. C'est très important, bien-aimé. Et là, nous voyons encore une fois de plus la discrétion du maître dit, je ne veux pas de pub. Pierre, tu as compris, les autres s'y comprendront. Il y a un passage que nous n'avons pas prévu. Je vous donne encore un exemple. Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas du voleur qui s'est converti. Vous pouvez dire, ah oui, c'est dans un état de désespoir qu'il a dit n'importe quoi. Mais prenons le celui qui était en position de force, le centenier romain, qui faisait partie des gens qui ont amené Jésus-Christ à la croix. Le centenier romain qui est en bas, il regarde Jésus crucifié. Il voit l'atmosphère changer. Il dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Voilà, qui dit mieux? Ça, c'est le pouvoir de qui? De l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut convaincre. Alors que le monsieur est à la croix, lui qui est libre, qui est fort, il croit qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez bien aimé que ce n'est pas les choses positives qui peuvent forcément changer les gens. Pas forcément. C'est l'Esprit Saint qui change le cœur. C'est pas ce que nous pouvons produire de bon, d'extraordinaire, de merveilleux. Non, c'est l'Esprit Saint. Parce que là, Jésus est crucifié. Il y a un voleur qui croit. Comment tu peux croire quelqu'un qui est crucifié? C'est l'Esprit Saint. Ça nous pousse à comprendre quoi? Simplicité et discrétion. Ça nous pousse à quoi? Parce que là, j'ai réservé pour la fin à l'assurance. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être dans l'assurance de son Dieu. Il n'a pas besoin de s'accrocher à une béquille, à un miracle. Il sait que Dieu existe, il va faire. Il marche avec Dieu dans l'assurance. Et c'est cette assurance qui va produire les choses. Mais ce n'est pas le contraire. L'assurance ne doit pas venir des choses qui ont été produites, mais de Dieu. C'est ça le véritable enfant de Dieu. Et cette assurance va produire des prodiges et des miracles. C'est pourquoi je nous avertis, attention, c'est Dieu qui produit. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Restons dans la même simplicité dans laquelle Jésus nous montre fonctionner. Voilà, c'est ça. Nous lisons Luc 18, 18 à 19. Luc 18, 18 à 19. Le fameux épisode avec le monsieur riche, Luc 18, nous allons lire que les deux premiers versets de l'histoire, 18 à 19.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Voilà. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus n'était-il pas bon? Oui, il était bon. Mais pourquoi il fait des problèmes? On lui dit bon maître. Jésus n'est pas dans le cosmétique. Il n'est pas dans l'esthétique. Si tu m'appelles bon, comprends une chose. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule personne qui est dans la bonté, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul être qui est bon, c'est Dieu. Donc, m'appeler bon, cosmétiquement, ce n'est pas le plus important. C'est saisir. Qu'est-ce que tu mets dans ce bon-là? Quand tu m'appelles bon, est-ce que tu as compris que j'étais Dieu? Est-ce que tu as compris que j'étais fils de Dieu? Parce qu'il n'y a de bon que Dieu. Il faut peser tes mots. Quand tu dis, il faut peser, je suis bon, il faut peser l'affaire. Il ne faut pas dire, je suis bon. Comme il n'y a que Dieu qui est bon, donc comprends ce que tu veux dire. Tu viens de m'attribuer la nature divine. Dans ce cas, si je suis Dieu, j'ai autorité sur tout ce qui est chez toi. Vends tous tes biens et suis-moi. Est-ce que le monsieur a suivi? Non, parce que les gens parlent, mais ils ne saisissent pas le message. Combien de gens n'avons-nous pas connus qui avaient vécu des miracles, mais qui n'ont jamais suivi le Seigneur d'une manière consacrée? Quand ils ont reçu le miracle, ils ont parlé, ils ont témoigné. Vraiment, il est grand, il mérite qu'on le suive. Tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'ils ont consacré leur vie au Seigneur? Non, parce qu'il y a ce que la bouche peut dire et ce que le cœur peut saisir. Dieu veut toucher le cœur. Et pour toucher le cœur, ça ne se passe que dans la simplicité et la discrétion. Si tu veux toucher la chair, oh, il y a plusieurs choses. Il y a les applaudissements, il y a le nombre, ça touche la chair. Il y a l'esthétique, ça touche la chair. La beauté d'un endroit. Il y a même des gens qui apprennent, qui font des cours de communication pour savoir comment toucher la chair. Mais si tu veux toucher le cœur, il n'y a que la vérité qui peut le faire. Et Jésus dit à ce monsieur, si tu me traites de bon, considère que je suis Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui est bon. Et il nous donne aussi un avertissement. Il veut nous dire, attention, il n'y a que Dieu qui est bon. N'acceptons pas que les gens nous attribuent des choses qui ne sont que pour Dieu. Nous ne sommes que des disciples, nous ne sommes que des serviteurs. N'acceptons pas des titres qui sont réservés à Dieu seul. Voilà. C'est très important. Une fois de plus, nous voyons la discrétion, la simplicité de Jésus. Alors, nous n'allons pas lire cet épisode puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Dans Luc 4, 1 à 10, il s'agit de la tentation du Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de ces tentations-là? Il y en avait trois. Il y a un, c'était qu'il fallait multiplier, produire, transformer les pierres en pain. Voilà, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Mais le monsieur a dit, ah mais non, mais je ne veux pas le faire. Je suis fils de Dieu, je le sais. Pourquoi dois-je prouver alors que je le suis? Bien-aimé, c'est comme si un jour, tu vois ta fille venir frapper à la porte de ta chambre. Si tu es vraiment mon père, achète-moi des baskets Jordan. Est-ce que tu vas acheter les baskets Jordan pour lui prouver que tu es son père? Depuis tout ce temps-là, c'est maintenant que tu doutes que je sois ton père. Voilà. Tu ne vas pas le faire. Donc Jésus n'a pas besoin de transformer les pierres en pain pour se sentir fils de Dieu. Il l'est. Il est fils de Dieu. Il a dit, je ne vais pas le faire. De toute façon, ce qui est important, ce n'est pas le pain physique, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de... C'est ça la réponse de Jésus. Ce qui est important, c'est Dieu, mon papa, c'est sa parole. Ce n'est pas tout ce qu'il peut donner. Vous voyez, la simplicité, la discrétion, ça va avec les tentations contre les tentations du diable. Le diable veut l'expression. Et Dieu dit discrétion et simplicité. Mais dans cette discrétion, discrétion et simplicité, il va y avoir des expressions. L'enseignement, c'est de comprendre que ces expressions-là sont secondaires. Le plus important, c'est le fond qui est discret et simple. Cette vérité que Dieu seul est Dieu et son Fils, c'est Jésus. C'est ça qui compte. Les expressions, il va y en avoir. Mais nous continuons notre chemin. Quand Paul a continué son chemin, derrière lui, les gens ont pris ses vêtements. Ils ont mis sur des malades. Les malades ont été guéris. Paul n'était plus là. Il continue son chemin. Les expressions à Dieu Nous, nous suivons Dieu. C'est tout. Bien-aimé, je ne suis pas en train de prêcher l'ascétisme, ou bien la pauvreté en gloire. Non, au contraire, je dis que puisque nous sommes sûrs de la gloire divine, nous n'avons pas besoin de faire de pub. Comme nous sommes sûrs de ça, nous n'avons pas besoin de faire du bruit. Nous lisons Marc 16, 1 à 8.
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi.
Amen, amen. Qu'est-ce qu'on dit à ces dames ? On a dit à ces dames, il est déjà ressuscité. Donc, quand Jésus sort du tombeau, il n'a pas convoqué d'abord ses disciples être autour là, de la tombe, et pour qu'ils sortent. Non. Quand ils sont venus, ils n'étaient plus là. Discrétion et simplicité. Même dans la résurrection. Pas de publicité. Quand ils viennent, on leur dit, il est déjà parti. Le tombeau est vide. Jésus a agi dans la discrétion et la simplicité jusqu'au bout. Quand Jésus est ressuscité, est-ce qu'il est parti voir les sacrificateurs, les politiciens qui l'ont condamné à mort ? Non. Mais entre nous, on peut dire, pourquoi Jésus n'est pas parti seulement les voir pour leur fermer la bouche ? Dieu n'a pas besoin de convaincre un homme pour se convaincre lui-même. Il sait qu'il est ressuscité. Est-ce que j'ai besoin que tu vois mon poulet pour que je sente son goût? Comme certains, il a fait un bon repas. Allez, Facebook, les gens doivent voir le repas qu'il mange. Mais est-ce que tu as besoin que les gens voient pour que ça soit bon dans ta bouche? Non. Simplicité. Jésus n'a pas besoin que Pilate reconnaisse qu'il est ressuscité. Pilate sait dans son cœur qui était Jésus. Parce que qui a sorti que Jésus était le roi des Juifs? C'est Pilate. C'est pas Jésus. Qui a sorti que Jésus n'avait fait aucun mal? C'est Pilate. Jésus, il nous a dit qu'il n'a rien. Il n'a pas donné de réponse. Et Pilate a dit aux autres, quel mal a-t-il fait? La vérité s'impose par elle-même. Elle n'a pas besoin de pub, ni de bruit, ni de faire, de vengeance, fermer la bouche aux gens. Non. Sinon, ça ne serait plus la vérité. La vérité est amour. La vérité est simple. Si Jésus est venu voir les sacrificateurs, vous dites, vous voyez, c'est de l'orgueil. Il est ressuscité, ils allaient l'apprendre. Vous allez apprendre que je suis ressuscité. Vous allez le voir chez mes apôtres. Quand vous allez observer mes apôtres, vous allez me voir dedans. vous allez comprendre que je suis ressuscité. Toujours dans la discrétion, au lieu que lui-même paraisse, ce sont les apôtres qui portent sa résurrection désormais. C'est nous qui portons la résurrection de Jésus. Mais nous, on veut qu'il paraisse. On veut qu'il y ait du bruit, que ça bouge. Comme ça, bon, notre cousin qui est magicien, il va voir. Mais non, porte toi-même la résurrection de Jésus dans ta vie. Là, il verra. Jésus est dans la discrétion. Parce que si nous commençons à faire comme les gens qui font le sport, qui font le showbiz, où est la différence? N'est-ce pas ça tout, c'est ça les tentations de Luc 4. Deuxième tentation, c'était « Je te donnerai toutes les richesses de ce monde. » Jésus a dit non. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'adorer mon Père. C'est clair. Les gens nous diront, mais Dieu va vous donner le plus grand bâtiment. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons tous les jours. Est-ce que nous adorons Dieu en esprit, en vérité? Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas à la montagne, ce n'est pas au temple, c'est en esprit, en vérité. C'est ça qui compte. Et nous, les chrétiens ont négligé tout ce que Jésus a prêché. Ils commencent à vivre autre chose. Je vous dis une chose concernant la résurrection de Jésus. Même si elle est discrète, elle était discrète, elle était réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si toi tu ne fais rien, Jésus ressuscitera ailleurs. Même si toi tu ne fais pas de bruit, Jésus est quand même ressuscité. Et il se montrera toujours dans la discrétion, mais il se montrera. La question c'est, veux-tu qu'il passe par toi? C'est tout. Mais il passera. Ne cherche pas à convaincre les gens. Jésus est ressuscité, c'est une réalité. Dis-le, annonce-le et vis-le. C'est ça qui compte. Dans l'assurance. Je clôture avec ça. Tout ça nous apprend une chose, l'assurance. Un enfant de Dieu doit être dans l'assurance concernant Dieu. C'est pourquoi il n'a pas besoin de bruit. Quand on a demandé à Abraham, mais alors, mon vieux, on fait comment pour le sacrifice? Son fils lui demande, c'est comment? Eh bien, il dit, mais Dieu pourvoira au sacrifice. Le père de la foi, Abraham, voilà, c'est tout. Dieu pourvoira au sacrifice. L'assurance. David, quand il se présente devant Goliath, c'est un enfant avec 5 cailloux. Vous savez, on avait tenté de lui mettre quoi? L'armure de Saül. Il dit, mais non, c'est pas ça. Simplicité et discrétion. Il a pris 5 cailloux, c'est tout. Nous devons nous habituer à la façon d'agir de Dieu si nous voulons rester avec lui. Sinon, un jour, il dira, mais tu as servi autre chose. Tu ne m'as pas servi. Moi, Jésus, c'est égal simplicité et discrétion. C'est tout. Mais je suis ressuscité et ma résurrection. Vous savez, la résurrection, c'est une plante qui commence à germer. Elle va sortir. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Elle va sortir. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce ne sont pas nos efforts qui vont sauver l'humanité. Jésus a déjà tout accompli à la croix. La question, c'est juste où? Qui veut que ça passe par lui? La question n'est pas, est-ce que nous pouvons? Non, Jésus, quand il a dit tout est accompli, il n'a pas attendu que moi je me convertisse. Hein? Quand il a dit tout est accompli, il n'a pas attendu qu'il existe cette église. Il a dit à l'avance, à la croix. Et c'est ce qu'il a fait quand il dit, c'est pourquoi je reviens pour dire, soyons simples, acceptons les enseignements du maître. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. S'il a dit, tout est accompli, croyons qu'il a tout accompli. La question, ce n'est plus, quelle stratégie nous allons faire? Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est demeurer en Christ. Demeurer dans son sillage. Et lui inspirera le reste. Il donnera les stratégies, il donnera le reste. Mais comme penser l'aider est une erreur, ça voudrait dire qu'il n'a pas tout accompli. Ça voudrait dire que nous ne sommes plus simples. Nous sommes devenus orgueilleux. Nous pensons aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Il nous demande d'être à ses côtés. Un point, c'est tout. Là où il veut que tu sois. Que tu sois là, c'est tout. Si c'est avec trois personnes, c'est ça qui compte pour lui. Ce qui compte, c'est lui. Ce n'est pas le nombre de personnes. Autrement, nous tous, nous serions où? Dans les stades de football. Parce que c'est là-bas qu'on trouve le plus grand nombre. Simplicité et discrétion. C'est très important, bien-aimé. Assurance. Résurrection et assurance. Il y a la simplicité et la discrétion qui vont avec l'assurance, la résurrection et l'assurance. Nous savons qu'il est ressuscité. Nous sommes sûrs de lui. Nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il est là, qu'il agit, puisque le centenier romain, alors qu'il est crucifié, il s'est converti. Le voleur à la croix, alors que Jésus est crucifié, il s'est converti. Ça nous montre que Dieu est au-delà de ce qu'on peut voir. Ce qui compte, c'est Dieu. Ce n'est pas ce qui s'exprime, mais ce que Dieu est lui-même et ce qu'il fait. Mais qui ne se voit pas toujours? Qui se fait dans la discrétion et dans la simplicité? Imitons notre Seigneur. Soyons simples et discrets. Continuons à vouloir les grandes choses, mais dans la simplicité et la discrétion. En laissant Dieu faire et non en faisant du bruit ou en forçant par nous-mêmes. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides à marcher dans la simplicité et la discrétion comme toi tu as fonctionné, en ayant l'assurance par ta résurrection que tu vas agir, que tu es en action même puisque tu as crié à la croix, tout est accompli, Seigneur. Mets en nous une simplicité qui va avec l'assurance en même temps. Car ceux qui sont dans l'assurance, ils vont être simples en même temps, parce qu'ils sont sûrs que toi tu fais, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses-là, Seigneur. Nous nous attendons à toi, ô Éternel, que nous puissions croire en toi plus qu'en ce que nous voyons. Car il est écrit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Merci, Seigneur, pour le travail que tu as accompli encore ce matin à travers l'adoration, à travers ta parole. Nous prions que nos cœurs soient changés, Seigneur. Que nous soyons des gens de la simplicité. Ô Seigneur, que nous soyons comme toi qui as lavé les pieds des disciples. Comme toi qui as été crucifié. Comme toi qui as appelé les disciples ses amis. Ô Jésus, merci encore pour ta bonté, pour ta fidélité.